France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Bien avant la carte SIM des smartphones, SIM pour Subscriber Identity Module, il y eut la carte SIM, CIM, pour Combier Imprimeur Macon, la célèbre maison d'édition de cartes postales fondée par le photographe Jean-Marie Combier. En photographiant la France sur toute son étendue et dans tous ses recoins, tout au long du XXe siècle, Jean-Marie Combier aura produit un fonds d'archives qui constitue pour l'histoire un témoignage unique de l'évolution de notre pays au fil des années, des transformations de ses campagnes, de ses villes, de ses paysages et du quotidien de ses habitants. De ce fonds d'archives, conservé au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, Marc Combier, fils du photographe, a dévoilé la richesse à travers de nombreux ouvrages nourris de cartes postales photographiées par son père. En 2002 notamment, avec Beaujour en France, album de la grande mutation des Trente Glorieuses qu'il signait avec l'historien Gérard Guichetot. Un livre que peu après sa parution, ses auteurs présentaient au micro d'Arlette Farge dans L'Histoire autrement.
Les lundis de l'histoire, Michel Perrault, Arlette Farge. Arlette Farge à 10h pour l'histoire autrement.
Entre la Libération et les années 1970, un pays, la France, se relève comme il peut de la guerre et de ses blessures et entre doucement et vite à la fois dans les temps du modernisme, de l'émancipation, oui, et du formica. Doucement et vite parce que les événements et leurs traces sont très contrastés en effet. La vie moderne s'installe tandis que le 19e perdure un peu et reste infiniment présent dans les gestes et dans les paysages. C'est ce que montre un album tout à fait original et dynamique, paru aux éditions Solar récemment, intitulé « Beaujour en France », signé de Marc Combier, l'héritier photographique des éditions Combier, et de Gérard Guichetot, journaliste, écrivain, amateur d'histoire et historien à la plume ironique et énergique. Tous deux sont mes invités aujourd'hui pour parler de cet album. Mais avant de leur laisser la parole, je crois qu'il est intéressant de situer ce travail pour les auditeurs rapidement. En effet, au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône sont conservées plus de 800 000 photographies destinées à la réalisation de cartes postales. Et c'était votre père, Marc Combier, qui a en fait eu la propriété, enfin en fait a élaboré ce fonds, le fonds Combier. Ce père qui a consacré sa vie à prendre des cartes postales dans tous les villages de France et qui, pris de court devant la vitesse des transformations, a dû 100 fois retourner aux mêmes endroits car la vie, les paysages étaient changés. Et ça, c'est vraiment très intéressant de réaliser que ça allait vite, comme je dis, vite et doucement. Ainsi, l'album « Beaujour en France », c'est une sélection de ces cartes postales passionnantes parce que... Comme l'écrit si bien, je crois, dans l'introduction, le conservateur en chef du musée, François Cheval, la carte postale multiplie et diffuse le non-événement. De plus, l'abandon des critères beaucoup trop esthétisants, finalement, donne une sorte de source anthropologique pour ces années entre 1950 et 1970. Alors, Gérard Guichetot, vous commentez ces cartes avec verve, peut-être avec nostalgie aussi, et vous soulignez souvent la brutalité des transformations qui viennent troubler un paysage ou tout du moins apporter quelque chose qui perdurera et qui ne sera pas forcément du mieux, qui ne sera peut-être pas forcément du progrès. Alors, je voudrais d'abord, Marc Combier, si vous voulez bien, votre père va vivre jusqu'en 1968, il va photographier la France. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur ce fond qu'on trouve au musée?
Alors tout d'abord, il faut rectifier, c'est pas mon père qui a constitué ce fonds lui-même, bien sûr, puisque il a confié à des photographes pendant plus de 40 ans la mission d'aller photographier dans les villages.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc deux types de photographies, une photographie tout à fait classique de la carte postale, c'est-à-dire prise par des opérateurs qui se rendaient dans les villages et qui souvent étaient aussi les négociateurs de leurs propres photos. Ce qui fait que le contact avec la clientèle locale est très proche. Donc c'est une demande souvent de la clientèle locale, et non plutôt qu'une vision d'un photographe qui vient de l'extérieur. Et d'autre part, à partir de 50, la prise de vue par photographie aérienne, enfin donc par avion. Et ça, c'est une spécificité de la carte postale dans ces années-là. Et mon père a donc voulu procéder à un ratissage complet de la France avec ses avions et d'avoir pratiquement une photo, au minimum, une collection de cartes postales par commune française.
Mais alors ça représente quand même une entreprise énorme, parce qu'il faut louer des avions déjà.
C'était acheté. Il a bénéficié du retour des Américains après la... Le débarquement, donc ces petits avions étaient des avions américains qui servaient à l'armée et qui ont donc été revendus ensuite par l'armée française, par les domaines très exactement. Et il a donc racheté ces avions, donc qu'on trouve encore dans certains aéroclubs, qui sont maintenant devenus des pièces de musée, bien sûr. Et ces avions permettaient de photographier à très basse altitude, sans faire de bruit et avec très faible vitesse, ce qui est donc permettait d'utiliser... des appareils photographiques classiques, voilà.
Alors, une seule chose, avant qu'on en vienne aux photos et à l'album, qu'est-ce que ça fait d'avoir passé son enfance au milieu des cartes postales et des vues de la France? Ça donne une idée du pays, enfin, ça donne une idée d'un rapport au pays, sans doute, qui vous a été entretenu.
Oui, c'est quand vous dites j'ai passé au milieu des cartes postales, c'est vrai, même pour mes jeux d'enfant, puisque... le souvenir de mes jeux d'enfance, c'était justement des cartes postales qui étaient dans des boîtes et pendant les journées tristes de l'été, j'étais à chercher, à regarder ces images, souvent dans des procédés photographiques qui permettaient d'avoir des odeurs, des noms qui restent encore pour moi, ces odeurs de photographies de l'époque qu'on appelait les photographies au bromure. Ça me touche beaucoup qu'on ait pu réaliser cet ouvrage, puisque ce sont mes jeunes années que j'avais vécues de façon un petit peu triste quand j'étais isolé autour de ces cartes postales. Et je me rends compte que, enfin, il y a déjà un certain temps, je m'en suis rendu compte, mais que c'était finalement un reflet de la vie de l'époque, sans acteurs. Ce ne sont pas des acteurs qui sont sur ces photos, ce sont des gens qui sont des gens de la rue, qui ont été... où ils sont éventuellement, ils étaient témoins du passage du photographe et ils ont été pris par ce photographe un petit peu comme des témoins, enfin de la rue. Et puis également des gens qui ont été des volontaires pour être présents sur cette image, mais des gens qui n'ont aucune, je veux dire, volonté d'être acteurs, témoins. C'était simplement des gens par plaisir. Et ça, c'est une vision très populaire qui, à mon avis, représente quelque chose d'assez inédit.
Tout à fait. Alors, Gérard Guichetot, vous avez fait une sorte de classement, vous avez fait un découpage que j'ai trouvé très astucieux pour nous présenter cet album, photos un peu colorisées. D'ailleurs.
Je crois qu'au tout début, au départ, il y a la volonté d'aller aux sources, en démarche historienne, en quelque sorte, c'est-à-dire de tenir compte du fond, et non point d'illustrer un propos comme ça arrive souvent dans les albums. Donc, après avoir parlé avec Marc, qui connaissait évidemment beaucoup le fond, après avoir jeté un œil sur le fond immense du musée Niépce à Chalon, j'ai élaboré une espèce de filet dans lequel la fille de Marc en particulier, Pauline, a été cherchée dans les boîtes correspondant au département, si vous voulez. Alors j'avais établi un véritable filet, qui est le découpage que vous...
Oui, mettez. Alors c'est ce découpage, je vais le dire, parce qu'il est très astucieux. Il y a l'état des lieux, les ruraux.
Oui, parce que c'est important, les ruraux.
On va y revenir.
C'est très important.
Il y a le béton et l'électricité, et les platanes.
Les platanes qui sont encore le long des routes.
Et puis, très bien, les loisirs, bien sûr, ça c'était plus attendu, mais la fille aînée de l'église.
La patrie et l'église qui sont très présentes parce que les gens tiennent beaucoup à leur église de campagne. Et puis, il y a des pèlerinages, c'est vrai, il y a un certain nombre de manifestations. Et puis la patrie, parce que il y a beaucoup de monuments aux morts, mais on n'a pas refait un listing des monuments aux morts, bien entendu. On a voulu présenter quand même l'armée en activité encore, parce que ce qu'on a souvent oublié, c'est que la France a été en guerre pendant 25 ans, sans interruption, jusqu'en 62. Ça a marqué quand même les esprits et puis la vie des campagnes et voilà.
Oui, alors moi ce qui m'a frappé en vision d'ensemble, enfin moi j'ai apprécié ce découpage et puis aussi la maquette de cet album parce que certaines sont colorisées. Celui qui a fait la maquette
c'est une jeune femme.
Et ça c'est vraiment très bien. Et alors moi ce que j'ai remarqué, vous allez me dire ce que vous en pensez l'un et l'autre, c'est une sorte de binarité constante, c'est-à-dire il y a à la fois l'immobile et ce qui bouge, il y a la sidération quand même devant les choses neuves et puis la pérennité, puis il y a aussi les matières. Il y a la formica qui remplace le bois. Quelquefois, les deux sont l'un avec l'autre. Il y a la voiture et le cheval. Il y a le paysage et le béton. Et on a l'impression que ça a dû être quand même, peut-être pas, peut-être qu'on ne le ressent pas quand on vit cette époque-là, mais quelque chose d'une formidable tension. Enfin, une tension, quelque chose qui se passe de façon très, je ne sais pas, Gérard Guichetot ou Marc.
Oui, et vous parliez de nostalgie tout à l'heure. Moi, je dirais que plutôt mélancolie.
Mélancolie,
c'est plus plutôt joli. La mélancolie que la nostalgie pour moi. Parce que, j'ai eu vraiment le sentiment physique de vivre des choses du 19e siècle. Il y a eu encore la lampe à pétrole dans les années d'après-guerre parce qu'il y avait des coupures d'électricité sans cesse. Le progrès est entré petit à petit. Vous avez noté mon propos, mais par exemple, le fait d'acheter des biens de consommation, c'est pas venu comme ça tout de suite. On s'est pas rué sur les frigidaires. Enfin, je viens de parler d'une marque, mais sur les réfrigérateurs.
Non, mais c'est un nom commun maintenant. Vous pouvez y aller.
On s'est pas rué sur les automobiles. Les vieilles autos des années 20 et 30 ont encore servi jusqu'à ce que les gens puissent acheter la belle de chevaux qui est représentative ou la 4 chevaux. Vous voyez, ça a fonctionné comme ça. Et puis la France a roulé à bicyclette. Le vélo avait une importance considérable. C'est pour ça que j'en
ai... Oui, le vélo, c'est ce que j'avais noté. Ce sont dans les photos les plus touchantes. C'est ces sorties d'usine en vélo, ces gens en vélo.
Et ce n'est pas du tout la vogue du VTT d'aujourd'hui.
C'était
une espèce de seconde nature, l'homme à vélo.
Marc Combier. La carte postale, elle témoigne aussi de l'apparition de tous ces équipements publics, les piscines, les tennis, enfin tout ce qui est, évidemment, bien entendu, les ensembles immobiliers. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate souvent, effectivement, comme quelque chose de subi, dans les deux sens du terme, du mot subi d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que je vois par exemple cette image d'un lycée ultra moderne, on peut utiliser ce terme à l'époque.
C'est vraiment.
qui est devenu absolument.
C'est vrai que c'est oppressant.
C'est oppressant,
mais ces immeubles qui s'implantaient un petit peu partout dans les campagnes, enfin, cette époque à la Playtime aussi.
Oui, tout à fait, parce que je venais de revoir Playtime, mais c'est fou.
Et là, la carte postale le montre bien, et c'était quelque chose que les dépositaires, c'était le terme qu'on utilisait pour les gens qui vendaient la carte postale, demandaient. C'est-à-dire que pour eux, un argument pour une carte postale, c'était aussi de montrer ces nouveaux équipements, ces piscines, ces nouveaux aménagements, et bien entendu, les cités. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, les cités sont demandées pour faire des sujets de carte postale. Je crois que malheureusement,
bah, c'est-à-dire
c'est
maintenant, on les détruit. On les détruit. Voilà. On fait des cartes postales de la destruction.
Mais à l'époque, les gens ont certainement vu ça comme quelque chose qui était peut-être l'avenir. Et ils étaient fiers pratiquement de montrer. Les...
Puis, alors en même temps, il y a quelque chose de la joie aussi. Il n'y a pas, bon, bah, ce béton, en même temps, ce béton, les gens y ont cru. Il faut quand
mais
même...
Bien tout à fait. Mais il y avait une nécessité. Hein. Voilà. C'était sortir de la misère noire des campagnes.
Bah, oui.
On oublie complètement ou des méchants taudis de la région parisienne.
Mmh.
Vous avez un film extraordinaire, assez court, qui sont les petits-enfants d'Aubervilliers,
oui.
avec Prévert qui est à l'origine de cette chanson. Mais c'était terrible, avec l'eau dans la cour, la boue, oui. Le froid. J'ai un souvenir d'enfance, j'étais à la campagne, de froid terrible, comme aujourd'hui, mais sans le chauffage.
Sans le chauffage.
Alors, donc, le béton, c'est vrai, on peut en dire du mal, et je ne m'en prive pas, mais c'était aussi un moyen d'avoir à chacun sa pièce, au chaud,
bien sûr.
De pouvoir étudier tranquillement, d'avoir une salle de bain, d'avoir une cuisine, etc.
Comme les
gens de la ville.
Ouais. Puis même comme ceux qui étaient à côté, les uns à côté des autres.
De toute façon, aussi, il y a de beaux engouements. Par exemple, le cinéma dont vous parlez, et le théâtre dont vous parlez. Très bien, ces cinémas qui se mettent en place, les piscines aussi, très bien. Et en même temps, et c'est à la fois le choix des cartes que vous avez fait, le choix du découpage et votre texte a quelque chose par moment, je me disais, mais il est très mélancolique.
Voilà, c'est mélancolique.
Hein, vraiment.
Voilà,
et en même temps, il y a ce charmant communiant dans le chapitre sur Yalbar du soldat avec photo étonnante.
C'est extraordinaire. Parce que j'ai pensé à mes camarades morts.
Et ben j'ai trouvé que c'était très beau cette photo-là. J'ai pensé que vous aviez pensé à ça.
Ça m'a importé quoi.
Mais je comprends. Puis il est là, la photo est très belle.
Vous savez, je
ne
suis pas du tout repentant parce que je trouve qu'on a été pris dans un piège, les gens de ma génération. Absolument affreux, quoi. À la fois, on a servi...
Vous pensez
à
la guerre d'Algérie,
voilà.
Oui.
On a un peu traîné les pieds pour y aller, parce que c'était pas trop notre affaire.
Je comprends.
Et puis, 50 ans après, on nous accuse de tous les maux, sans poser les vraies questions sur ce sujet. C'est ce que je dis dans mon texte, et c'est à quoi j'ai pensé avec la photo. Le personnage qui est représenté n'est pas celui dont je parle dans la légende, si vous voulez.
Bien sûr.
Mais j'ai pensé à quelque chose, à ce moment-là. Ça se passait comme ça, en fait. Mmh. Il y avait à la fois la joie un peu exubérante autour d'un verre d'anisette sur place. Et puis le lendemain, on sait la guerre. Quoi.
Oui. Alors, en même temps, vous le disiez, Marc Aubier, peu d'acteurs sociaux, en tout cas, qui font aucune mise en scène, qui sont pris... il y en a des acteurs sociaux, je dis des bêtises. C'est pas peu d'acteurs sociaux, c'est peu de personnes se mettant en scène.
Voilà.
Mais en fait, des visions... comme ça, quand même, de moments aussi de vie.
Mm-hmm.
Hein, je pense à celui qui est ici.
C'est mon village où j'habite, en plus.
Ah bon, alors on va dire ce que c'est.
C'est une école. Qu'on appelait l'école ménagère,
voilà.
Qui était tenue par les sœurs du village. Ce village étant le village natal d'une sainte, qui est Sainte Marguerite Marie Alacoque.
Oui, très connue.
De Paris,
oui, bien sûr.
Voilà,
mais alors,
elle
semble apprendre à s'occuper des enfants, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
sur des poupées en celluloïd.
Voilà, c'est ça. Oui. C'était pour former les dames qui allaient ou dans les maisons bourgeoises ou même chez elles, quoi.
Et là, on a tout un univers du féminin. Il y a la religieuse, bien sûr.
Ouais.
Il y a ces femmes qui ne peuvent être que des mères, en tout cas pour ça. Et puis, on a aussi ces photos de sortie d'usine dont je parlais tout à l'heure avec le vélo. Tout le monde sort. Il y a eu beaucoup de cartes postales de sortie d'usine.
Beaucoup plus tôt, mais pas dans les années 50-70.
Non,
c'était déjà.
Elles sont
un peu
très impressionnantes, toujours.
Et oui, parce qu'on revoit.
Ah,
ça a été vraiment, je crois, l'objet du travail de Gérard, c'est de retrouver dans notre inconscient toutes ces images que nous avions, tous les mots. Enfin, il le prend dans ses textes, on retrouve ces mots, ces images qu'on a oubliées, qui ne sont plus dans notre quotidien actuel. Et on les a retrouvées avec la carte postale. Qui, au départ, n'a absolument pas du tout cette vocation. Quoi.
Non, mais bien sûr.
La carte postale, c'est montrer un lieu le mieux possible.
C'est de
valoriser un lieu, même si on montre un camping. C'était à l'époque, montrer un camping, parce que ça avait quelque chose à l'époque.
C'est terrifiant.
Vous avez la page. Oui, c'est terrifiant. Alors là, on a une page avec les camps de loisirs et on a effectivement. Bah, c'est terrifiant, puis à la fois, je pense que c'est voilà.
C'est comme ça. Pour l'époque, ça. c'était une fierté.
On est en plein dans les vacances de M. Hulot. Là.
Oui, mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose qui m'a frappé. Vous avez l'air d'aimer le cinéma, je pense, tous les deux, parce que vous en parlez. Et vous savez, je vais vous dire, ces photos-là, le camping municipal, Usinor, Valenciennes, La Roche-Suise et Sceaux, et les façons dont sont prises ces photos, on dirait des films très modernes de Wim Wenders ou de Paris, Texas, qui ont pris justement ces prises de vue-là. Et il y a quelque chose d'une force de ces photos et de cet album, comme on peut le suivre comme un récit cinématographique. J'espère que
c'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait exact. Vous savez, regardez le retour en force de Tati.
Oui, je sais.
Et d'un seul coup, devient prophète, alors que on l'a pris pour un amuseur pendant quelques. Ça, c'est la joie de vivre cette plage du Nord. C'est absolument extraordinaire. Quand on est tombé sur cette photo, je me souviens encore à Châlons, on dit « Ah, tout le monde a hurlé en disant « Il faut absolument qu'elle y soit ».
Ouais. Oui, mais en même temps, Marc Combier, Gérard Quichetot, je suis d'accord avec votre mélancolie. Par moments, je l'ai trouvée trop forte, peut-être. Et puis, vous avez l'air pas bien content de toutes les idéologies de la Terre, des anthropologues et des sociologues. Et, enfin, ça, c'est, je mélange. Mais ce que je veux dire, c'est... Vous savez, la non-idéologie dans laquelle on est maintenant, c'est pas non plus la joie de vivre. Et moi, j'ai envie de dire, retrouvons d'autres valeurs. Et ce livre donnait envie.
Voilà, tout à fait. C'est un peu ça, vous savez.
On est un petit peu complice de ces images, il faut bien le dire.
Oui. Vous êtes complice en quel sens, vous voulez dire?
Parce que c'est vrai que ce qu'elles exprimaient à l'époque, bon, n'est pas forcément la même vision aujourd'hui, mais on a tendance à les apprécier en tant que... je dirais, faire valoir un petit peu de ce que l'on regrette. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, je dirais, très objectif, c'est normal.
Oui, c'est normal.
Cette vision était une vision, enfin, vous voyez bien, toute la tendance de l'ouvrage, il y a une vision quand même décalée un petit peu, c'est pas...
Non, mais c'est ça qui est très intéressant, ce que vous venez de dire là. Ouais. C'est le fait que vous, quand vous regardez ça, vous le regardez sans doute pas comme moi quand je l'ai découvert. Il me raconte. Et ça, c'est très, très intéressant.
Mais vous évoquez le cinéma. Bon, nous en parlons souvent. Regardez les films comme, j'en parle, le Beau Serge, par exemple.
Oui.
Eh bien, je me suis aperçu que j'avais peut-être fait une erreur parce que dans le scénario. Si le beau Serge est aussi désespéré, c'est parce qu'il a un enfant à problème, etc. Et moi, je l'ai vu. Et quand je l'ai vu en rentrant d'Algérie, par exemple, je l'ai vu comme le destin d'un de mes compagnons d'armes, de quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire quelqu'un qui se réfugie dans l'alcool et dans le délire, si vous voulez.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a ce passage-là, mais je l'ai fait involontairement, par exemple. Mm-hmm. C'est ça qui est très curieux, mais ça c'est le même cheminement, finalement, que ce que vous venez de souligner.
Mais c'est ce qui donne, je crois, beaucoup de force à votre album. C'est que c'est sûr, comme vous disiez, si ça avait été un classement traditionnel, village après village, etc. C'est le parti pris, le regard que vous avez apporté qui donne cette dynamique, moi que j'ai tout à fait apprécié. Mais je voulais parler du commentaire parce que je crois que c'est important de savoir qu'est-ce qui vous a animé.
Dans ce genre d'ouvrage, il y a parfois un aspect dénigrement, si vous voulez. Ah, regardez comme on a...
Oui. Non, c'est pas là.
Regardez ces pauvres gens. Oui. Et justement, il fallait absolument éviter ça.
Absolument.
C'était impensable.
Non.
Oui. Même si on pointe ici et là des exagérations. Bon, j'ai dit du mal du béton un peu, mais c'est aussi nécessaire.
Bien sûr.
Je dis du mal de l'électricité parce qu'il a apporté le son, mais mon Dieu, il y a aussi beaucoup d'avantages, n'est-ce pas? Le principal, peut-être la plus grosse catastrophe, c'est quand même la destruction du paysage. D'où le chapitre que je consacre aux paysans, aux derniers ruraux, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont basculé.
Oui, et puis il y a les campagnes qui se vident ça, complètement, les chiffres.
Je ne suis pas contre les anthropologues.
Non, mais je vous taquine.
D'autant que je rends hommage à quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance pour moi, qui est Lévi-Strauss.
Oui, mais bien sûr.
Même si aujourd'hui, c'est Triste Tropique, mais si, quand on relit Triste Tropique, c'est absolument extraordinaire.
Marc, combien, est-ce que ce fonds donc, est visité beaucoup là, j'aimerais savoir son actualité à l'heure actuelle dans le musée.
Eh bien, écoutez, pour l'instant, le locaux du musée ne permettent pas une visite facile, mais je crois pas trop dévoiler, mais peut-être un peu, qu'il y a un projet qui est en cours pour un nouveau musée qui ouvrira bientôt ses portes avec là effectivement une salle où on pourra consulter.
Consulter, vous voulez dire, on pourra y faire des expositions, peut-être par exemple un album comme ça, il aurait pu faire l'objet d'une exposition, on pourra y trouver des thèmes, on pourra le consulter comme fonds d'archives.
C'est écoutez,
ça enfin vous savez pas.
Mais pour l'instant, c'est un projet qui est en cours de réalisation, il y a beaucoup de réunions autour de ça, et justement on travaille sur cette idée de voir comment on va pouvoir présenter ce fonds le mieux possible pour que les gens puissent trouver à la fois des images, donc je pense que il y aura des outils électroniques qui permettront de rechercher.
Oui, c'est ça,
c'est ça le but.
Oui, c'est ça.
On a quelques petites années devant nous pour mettre ça en place.
Mais écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cette intervention aujourd'hui. C'était Marc Combier, Gérard Guichetot, Beau jour en France, aux éditions Solar, à partir du fonds de photographie, du fonds Combier, au musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. Ce matin, les lundis de l'histoire étaient présentés par Michel Perrault et Arlette Farge. Équipe de réalisation, Olivier Dupré, Pierrette Perronneau.
C'était Les lundis de l'histoire, l'histoire autrement, Beau jour en France de Marc Combier et Gérard Guichetot, une émission diffusée la première fois le 20 janvier 2003 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.